أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Avant de parler du sujet d'aujourd'hui, je voudrais fournir une explication concernant le sujet de la semaine dernière. Certes, la grande majorité des gens ont compris mon sermon. Les gens comprennent ce sujet et c'est un sujet qui a été évoqué dans la littérature de la Jamaat. Ce sujet concerne le statut du Messie premier des Salam par rapport au Daroud et le lien du Messie premier des Salam avec le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Certains ont posé la question que le Messie premier des Salam fait partie des premiers parmi les membres de la famille du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Car selon les hadiths, le Messie et le Mahdi jouissent d'un grand statut et le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a évoqué le Mahdi avec un grand amour. La question est valable. C'est vrai que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui-même a expliqué le statut de ce fils spirituel qu'est le Messie promis alayhi salam. Mais puisque je parlais à propos du mois de Muharram, j'ai limité mon sujet au point de vue des chiites et des sunnites. Et je leur ai attiré l'attention vers le fait que si les deux parties comprennent au cours de ce mois que nous formons une seule Ummah et que s'ils comprennent que selon la définition du saint prophète, paix soit sur lui, le musulman est celui qui ne nuit pas aux autres musulmans ni par ses mains ni par sa langue, alors il n'y aurait plus d'inimitié parmi les musulmans, plus de rancune parmi ces deux groupes, et ils ne vont plus s'entretuer non plus, et ils pourront générer de l'amour et de la fraternité, et ils vivront en paix. Et à propos de la protection de la vie des autres musulmans, et concernant les signes des musulmans, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a déclaré « Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah harama maluhu wa damuhu wa hisabuhu alallah » Il a déclaré donc que celui qui accepte que nul n'est digne d'adoration sauf Dieu et qui rejette les faux dieux, sa vie et ses biens sont sacrés, Et c'est Allah qui sait le mieux comment il va le traiter. Voilà donc, selon l'islam, l'importance de la protection de la vie. Et celui qui a prononcé les paroles « La ilaha illallah » qu'il les fait en craignant les musulmans, selon le saint prophète Mohammed B. soit lui, cette personne doit être considérée comme un vrai musulman et que si vous assassinez cette personne, vous serez à sa place et il sera à la vôtre. Voilà donc l'importance de la protection de la vie d'un musulman selon le saint prophète Mohammed B. soit lui. Et si tous les musulmans comprennent l'importance de la kalima et du daroud, il n'y aura pas de telles actions que nous voyons aujourd'hui, surtout au cours du mois de Muharram. Mais à leur grand malheur, les musulmans n'ont pas compris cela. Et les nouvelles que nous avons reçues au cours du mois de Muharram témoignent que ce que j'ai dit la dernière fois à propos des musulmans est fondé. Notamment que les chiites et les sunnites commettent plus d'exactions les uns contre les autres au cours de ce mois de Muharram. En tout cas, ce sont les actions de ceux qui n'ont pas accepté l'imam de l'époque. L'imam de l'époque, qui est ce fils spirituel du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, à propos de qui il a déclaré que lorsque viendra l'imam Mahdi, vous devez aller lui transmettre mes salutations, même si vous avez à ramper à genoux sur des glaciers. Voilà donc le statut du saint prophète Mohammed B. soit lui. Et il y a aussi d'autres hadiths où l'on a évoqué l'amour spécial qu'éprouvait le saint prophète Mohammed B. soit lui à propos du Messie qui allait apparaître. D'entre tous, c'est le Messie promis alayhi salam qui est le plus proche du saint prophète Mohammed B. soit lui. Au cours de mon précédent sermon, j'ai évoqué une vision du Messie promis alayhi salam où il a déclaré que Hadrat Fatima Zahra, telle une mère, avait posé sa tête sur sa cuisse, alors que le saint prophète, et soit seul lui-même, et toute la famille de sa fille étaient présents. Cela indique que le Messie promis alayhi salam fait partie de la famille du saint prophète Mohammed, et soit seul lui. Et bien avant sa déclaration d'être Mahdi, une fois le Messie promis alayhi salam est tombé gravement malade et Dieu lui a enseigné une prière dans une révélation. Et dans cette prière, il y avait le daroud. Et on lui a dit de réciter cette prière afin de recouvrer la santé. Cette prière était « Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-Azim, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad ». Dans cette révélation, Ali Muhammad a été mentionné sans la préposition Allah. Et cela ne fait que rapprocher le Messie promis alayhi salam du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Car selon nous, c'est le Messie premier des salam qui est le plus proche du saint prophète Mohammed paix soit sur lui parmi les gens de sa postérité. Que les autres acceptent cela ou pas, mais selon nous, aux yeux d'Allah, le Messie premier des salam fait partie des membres de la famille du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Et c'est le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, lui-même, qui lui a accordé ce statut. Comme je l'ai déclaré, le Messie promis, alayhi salam, a déclaré qu'il jouit de ce statut en raison de l'amour qu'il éprouvait pour le saint prophète. En raison de l'amour qu'il avait pour le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, en raison des prières et des salutations qu'il avait envoyées sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans ce contexte, la Jamaat a aujourd'hui plus de responsabilités, car nous sommes en train de voir plus d'inimitié parmi les musulmans. Et les musulmans sont en train de s'éloigner les uns des autres davantage. Nous devons donc envoyer plus de salutations sur le saint prophète, paix soit sur lui, car nous avons accepté l'imam de l'époque, cet imam qui fait partie de la famille directe du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Nous voyons très bien les conséquences des intérêts personnels des musulmans. En dépit des bombardements criminels d'Israël sur la Palestine, les pays musulmans n'ont point fait de protestation. Quelques voix se sont levées ici et là, mais ces voix n'ont prononcé que des paroles douceâtres. Ces voix étaient presque inaudibles. Par contre, ici en Occident, certains chrétiens, des individus et des organisations ont protesté plus vivement contre la réaction et les bombardements d'Israël. Plus que les pays musulmans, ces personnes ont réagi avec plus de véhémence contre cette guerre. Donc, puisque tous ces pays musulmans sont insensibles, il nous incombe d'aider les musulmans en envoyant des salutations sur le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et en priant. Encore une fois, je le répète, que nous devons prier beaucoup, car nous, les adeptes du Messie premier, notre âme et la plus grande âme est la prière. Et c'est grâce à cette âme que l'Ahmadiyya et l'Islam auront la victoire, qu'Allah nous en donne la possibilité. Maintenant, je vais me tourner vers le sujet d'aujourd'hui. Tous le savent qu'au cours du premier ou du deuxième vendredi du mois de janvier, on annonce la nouvelle année du fonds de Waqf-e Jadid et on présente aussi un rapport des sacrifices accomplis au cours de l'année écoulée. Mais avant cela, j'ai autre chose à dire, notamment concernant les tâches des croyants, à savoir comment les croyants doivent dépenser dans le chemin d'Allah, comment ils doivent faire des sacrifices. Dans la sourate Al-Hadid, Dieu déclare إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. Quant aux hommes qui font de l'aumône et aux femmes qui font l'aumône et ceux qui font un bon prêt à Allah, il sera multiplié pour eux et il y aura aussi pour eux une récompense honorable. Le Messie premier a expliqué cela et déclare que Dieu n'a pas besoin de votre argent. Dieu lui-même s'est voué à retourner ce que vous avez dépensé en son chemin, comme si vous lui avez fait un prêt. Voilà donc comment Allah prouve son amour à l'égard de ses serviteurs. En dépit d'être indépendant, lui qui n'a pas besoin d'argent, il déclare que lorsque quelqu'un dépense en son chemin, c'est une dette qu'il doit retourner et qu'il doit récompenser. Allah n'est pas comme ces personnes qui empruntent de l'argent et qui oublient de rembourser. Allah déclare que je vais retourner et que je vais rembourser. Allah apprécie donc les sacrifices financiers en son chemin. Et aujourd'hui, l'on est en train de faire ces sacrifices pour le progrès de la religion, et certainement la récompense sera grande aux yeux de l'homme. Cette récompense sera si grande que l'homme ne peut la concevoir, à condition qu'il dépense sincèrement pour la cause de Dieu. Et aujourd'hui, tout le monde ne cherche qu'à assouvir ses penchants matériels. Ceux qui vont faire des sacrifices seront certainement remboursés de la meilleure façon pour se préfier à Allah. Et nous en avons fait le témoignage. Ce n'est pas là que les gens ou que des histoires que nous avons lues dans le Saint-Coran, des choses dont nous n'avons aucune expérience ou des événements du passé. Mais même à notre époque, ils sont nombreux parmi nous, ceux qui ont témoigné de cela et ceux qui continuent à en témoigner. C'est donc une faveur qu'ont reçue les Ahmadis après avoir prêté allégeance au Messie promis, alayhissalam. Et les Ahmadis ne pourront jamais assez remercier Dieu pour cette grâce que Dieu leur a accordée. Et c'est en raison de leur reconnaissance que chaque année, les sacrifices brillent davantage en dépit d'une situation économique des plus difficiles. Cette année-ci, dans le monde entier, il y a eu une crise économique, mais les sacrifices des Ahmadis n'ont pas reculé. Un Ahmadi ne se soucie pas de sa subsistance, il se soucie par contre du fait qu'il doit compléter sa promesse. Alors que la situation des autres est tout à fait le contraire, dans cette même sourate Al-Hadid, Dieu a évoqué les qualités de ces gens, mais Allah a aussi évoqué un avertissement, à savoir que les croyants ne doivent point être négligents dans leur quête du plaisir de Dieu, que ce soit dans le domaine des actes d'adoration ou des sacrifices ou d'autres obligations que Dieu nous a prescrites. Car la vraie vie est celle de l'au-delà, c'est la vie du plaisir de Dieu. Allah déclare « Irlamu anamal hayat dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun » بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Sachez donc que la vie de ce monde n'est qu'un jeu et un amusement et un ornement et une source d'orgueil entre vous-mêmes et de rivalité à multiplier richesse et enfants. Cette vie est pareille à de la pluie qui produit de la végétation dont se réjouissent les cultivateurs. Ensuite, elle se dessèche et tu la vois jaunir. Puis elle devient des particules de paille brisées. Et dans l'au-delà, il y aura un châtiment rigoureux et aussi le pardon de la part de Dieu et son plaisir. Et la vie de ce monde n'est rien que de la jouissance trompeuse. Regardons autour de nous aujourd'hui, nous allons constater que s'il existe une jamaat qui est en accord aux préceptes de l'islam et qui est en train de dépenser pour la cause d'Allah, c'est la jamaat Ahmadiyya. C'est la jamaat Ahmadiyya qui est en train de faire ses sacrifices pour avoir le plaisir de Dieu. Si les autres font aussi des sacrifices, ces sacrifices sont insignifiants et tous ne se contentent que d'assouvir leurs penchants. Bon nombre d'innovations ont pris racine chez les musulmans. Ils font des dépenses faramineuses et ostentatoires pour les mariages et autres cérémonies. Et je veux aussi attirer l'attention de la Jamaat à ce propos, car il y a aussi de telles doléances concernant les Ahmadis. Si, après avoir accepté le Messie premier, nous suivons aveuglément les autres, et si nous sommes influencés par la société, si nous oublions le but du serment que nous avons fait au Messie premier, alors nous serons parmi ceux à propos de qui Allah a déclaré que le monde n'est là que pour assouvir leurs penchants et que ce monde n'est qu'un amusement et un jeu pour eux. Et cela ne fera qu'écarter l'homme de l'objectif premier de sa vie. Si, après avoir accepté l'imam de l'époque, nous sommes toujours orgueilleux de nos biens et de nos enfants, et que si nous oublions nos sacrifices et nos actes d'adoration, alors certainement, nous n'allons plus mériter cette récompense honorable. Allah déclare que je vous ai donné ces biens et je vais voir si vous allez amasser ces biens uniquement pour vous donner de l'importance ou si vous allez chercher réellement le plaisir de Dieu et que vous allez dépenser cela pour la cause de Dieu. Si vous dépensez pour la cause de Dieu, alors certainement vous aurez une récompense honorable. Sinon, sachez que ces biens ne sont point éternels. Ces biens sont comme ce champ verdoyant qui réjouit le regard de son propriétaire. Et le propriétaire y attache un bon nombre d'espoirs. Il fait des plans pour le futur. Mais lorsque ce champ est prêt à être moissonné, Allah envoie une tempête qui le détruit complètement. Et le propriétaire n'a plus rien en retour. Donc, grâce à cet exemple, Dieu explique aux croyants qu'il ne doit pas poursuivre les choses de ce bas monde, car la fin de ces choses est la déception et l'échec. Et quant à ceux qui oublient Dieu, ils auront comme récompense le châtiment de l'au-delà. Le croyant doit donc s'évertuer à jouir du pardon et du plaisir de Dieu. Voilà donc les signes d'un vrai croyant. Sinon, ce monde, avec tout son faste, peut nous leurrer, mais sa fin n'est que déception. Sa fin n'est qu'échec. Ensuite, dans le prochain verset, elle déclare Sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha ka 'ardhis samaa'i wal ard. Uiddat lil ladzina aamanu billahi wa rasulihi. Dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dhul fadlil 'azhim. Rivalisez les uns les autres pour rechercher le pardon de votre Seigneur et pour avoir ce jardin dont l'étendue recouvre le ciel et la terre qui a été préparé pour ceux qui croient en Allah et en ses messagers. C'est là la grâce d'Allah, il l'accorde à qui il veut, et Allah est le Seigneur de grâce immense. Voilà donc la tâche qui incombe au croyant. Il doit constamment chercher le plaisir de son Seigneur et conséquemment, il sera l'héritier de ce paradis qui prend la forme des faveurs divines ici-bas et qui, dans l'au-delà, sera accordé aux croyants qui agit en toute sincérité pour la cause d'Allah, qui agit uniquement afin d'avoir le plaisir de Dieu. Le croyant est héritier de ce paradis terrestre et céleste. Ici-bas, en agissant selon les préceptes de Dieu, il voit les faveurs de Dieu pleuvoir sur lui et il s'en réjouit. Et dans l'au-delà, il sera aussi content. Telle est la promesse de Dieu. Je reçois des centaines de lettres où les gens évoquent leurs sacrifices et comment Allah leur a accordé la paix de l'âme après avoir fait ce sacrifice. Comment Allah bénit leurs biens et comment Allah leur accorde du bonheur par l'entremise de leurs enfants. Voilà donc le paradis ici-bas sur terre, le paradis dont jouit le croyant. Et ensuite, puisqu'il voit ceci ici-bas sur terre, sa certitude quant à l'au-delà grandit davantage. Quelques jours de cela, le secrétaire mâle d'une région m'a écrit et a déclaré qu'une personne est venue me rencontrer le 2 janvier. Il a déclaré qu'il y aura le serment concernant le Waqf-e Jadid. Voilà ma promesse. J'ai augmenté ma promesse et voilà le paiement que je vais faire. Donc les gens ont cette ardeur pour faire ces sacrifices car ils savent et ils ont la certitude qu'ils auront le plaisir de Dieu en retour. Donc, cette foi et cette certitude grandit, à savoir que nous serons récompensés dans l'au-delà. Mais nous ne pouvons concevoir ce que Dieu va nous donner dans l'au-delà. Ensuite, il est dit, « Wa janatin arduha ka ardi sama'i wal ard » et cela nous fait comprendre que ce jardin ou ce paradis va couvrir l'étendue du ciel et de la terre, c'est-à-dire ce paradis n'aura pas de frontières. C'est quoi ce paradis? Cela a été évoqué dans les premiers versets, c'est-à-dire le plaisir de Dieu. Une fois, un compagnon a posé la question suivante au Saint-Prophète Mohammed en disant que si le paradis recouvre tout l'univers, toute la création, alors où se trouve l'enfer? Le Saint-Prophète Mohammed a répondu que lorsqu'il fait jour, où se trouve la nuit? Donc, le paradis et l'enfer ne sont pas deux endroits différents, mais ce sont deux états. Celui qui oublie Dieu voit l'enfer, et au même endroit, celui qui accomplit des actes méritoires va voir le paradis. En changeant l'angle et la direction, sa situation change. Ces temps-ci, avec certaines photos, lorsqu'on change l'angle, on change de dimension et de perspective. Un croyant est celui qui cherche le plaisir de Dieu et qui vit dans le paradis. Et au même endroit, un incroyant, celui qui ne cherche que les plaisirs de ce bas monde, s'attire le courroux de Dieu et il détruit aussi sa vie ici-bas et dans l'au-delà. Le paradis, en fait, c'est le plaisir de Dieu. Si on jouit du plaisir divin, on vit dans le paradis. Qu'Allah fasse que nous puissions tout le temps faire des efforts en ce sens et que nos actes d'adoration et que nos sacrifices puissent attirer les grâces de Dieu. Allah a aussi déclaré « Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha » et il nous fait comprendre que c'est vrai que le paradis est accordé à ceux à qui Allah accorde ses faveurs, des personnes qui acceptent Dieu et son prophète, des personnes qui, à notre époque, ont accepté le Messie premier de l'Islam. Mais, afin de perpétuer cette grâce, il est primordial de faire l'analyse de ses actions. C'est pour cette raison que Dieu nous a enseigné cette prière, afin de renforcer notre foi et nos actions, notamment la prière « Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana », c'est-à-dire « Oh Allah, fasse que nos cœurs ne se pervertissent pas après que tu nous aies guidés, fasse que nous ne soyons jamais fiers en disant que nous avons fait de grands sacrifices, fasse que l'éclat de ce bas monde ne nous détourne point de notre voie et que nous ne commençons à considérer les fonds de la jamaat comme des fardeaux. Nous devons considérer ces contributions comme une grâce que Dieu nous a accordée, car il nous a liés avec les premiers et nous a donné la possibilité de faire ces sacrifices pour la religion. Qu'Allah fasse que cette grâce continue de génération en génération. Dans un endroit, le Messie premier d'Islam a déclaré que l'on progresse dans sa foi en faisant ses sacrifices. Et c'est une question d'amour et de sincérité. Donc, toutes ces personnes qui prêtent allégeance doivent fixer une somme à contribuer et ne doivent point être négligents. C'est vrai que généralement, les Ahmadis qui ont grandi dans la Nizam et Jamaat ont laissé de grands exemples de sacrifices. Des fois, on est ébahi par les sacrifices des Ahmadis. Mais parmi les nouveaux venus, nous ne voyons pas cette habitude, c'est-à-dire cette habitude de faire des sacrifices financiers. Cela ne se voit pas dans la plupart des pays, car on n'a pas fait des efforts pour les initier aux sacrifices financiers. Selon moi, c'est une faiblesse de la Nizam et Jamaat. Dès les premiers jours, la Nizam et Jamaat devait faire des efforts en ce sens et aurait dû prendre quelque chose même de symbolique et aurait dû les initier aux sacrifices. Là où on a fait des efforts par la grâce d'Allah, les résultats ont été positifs, tout comme l'a déclaré le Messie premier d'Islam, en faisant ses contributions, l'on progresse dans sa foi. Allah a accordé cette grâce aux nouveaux venus en raison de quelques bonnes actions de leur part, et ils ont pu répondre à l'appel du saint prophète Mohammed paix soit sur lui et ont accepté le Messie premier d'Islam. Maintenant, afin que cette grâce fasse partie intégrante de leur vie, afin de progresser dans leur foi, il est primordial que ces personnes commencent à faire des sacrifices. Et on doit faire des efforts pour faire participer les enfants dans ces fonds. Et l'année dernière, j'ai déclaré que l'on doit faire participer les enfants dans les fonds de Waqfe Jadid, qu'elle donne la possibilité aux jamaat et aux parents d'agir en ce sens et qu'il leur donne la possibilité de coopérer en ce sens. C'est vrai que la situation économique était difficile, mais la jamaat n'a jamais reculé. Au contraire, la jamaat a progressé. Si une jamaat est négligente, il y a une autre qui prend sa place. Mais si les jamaat font des efforts conséquents et en examinant les chiffres, l'on constate que l'on peut faire mieux, surtout dans le nombre des contributeurs, alors certainement on va progresser. même si ces gens contribuent des sommes symboliques. Cela est nécessaire car grâce à ces sacrifices, l'on progresse dans sa foi. Avant de terminer, je vais présenter certains chiffres concernant le Waqf-e Jadid. L'année écoulée était la 51e année et maintenant débute la 52e année de la Waqf-e Jadid. Et cette année-ci, par la grâce d'Allah, toutes les jamaats du monde entier ont contribué la somme de 3 175 000 livres sterling. Et par rapport à l'année dernière, il y a eu une augmentation de 750 000 livres sterling. Alhamdulillah. Et comme d'habitude, le Pakistan est en premier. Et dans le fond de Waqf-e Jadid, au Pakistan, il y a 10 000 nouveaux contributeurs. La majorité de ces contributeurs sont pauvres au Pakistan. Et leur exemple est comme celui cité dans un hadith. Une fois, le saint prophète Mohammed lui a déclaré que la somme d'un dirham a dépassé la somme de 100 000 dirhams. On lui a demandé comment cela. Il a déclaré qu'une personne avait 2 dirhams et elle a contribué 1 dirham. Un autre avait plusieurs centaines de milliers de dirhams et il a contribué 100 000 dirhams. C'est vrai que la somme est plus, mais par rapport au sacrifice, ce premier dirham ou ce unique dirham dépasse les 100 000. En Afrique et au Pakistan, les gens contribuent des sommes qui apparemment sont insignifiantes. Et ces gens font donc des sacrifices. Et on s'étonne comment ces gens arrivent à contribuer et à vivre, qu'Allah leur accorde la meilleure des récompenses. Les USA est en deuxième position. Il y a eu 256 nouveaux contributeurs, mais l'année dernière, ils avaient contribué 80 000 dollars de plus que cette année-ci. C'est-à-dire, il y a une manque de 80 000 dollars. Et en tout, aux USA, il y a 8276 contributeurs. L'argent du Waqf-e Jadid qui est collecté en Europe et aux USA et dans les pays riches est utilisé pour la construction des mosquées, des mission houses et pour les publications en Inde et en Afrique. Donc, ces pays doivent maintenant augmenter leur contribution. Et de toute façon, ils doivent augmenter le nombre de contributeurs. Et cette augmentation de 276 nouveaux contributeurs est l'effort des Nasirat et des Atfal. Ce n'est pas là l'effort de la Jamaat. En tout cas, cela nous réjouit car par la grâce d'Allah, les nouvelles générations ou nos enfants sont en train de faire ces sacrifices et ont cet esprit de sacrifice. Et en troisième position, il y a le Royaume-Uni. Il y a eu une augmentation de 86 000 livres sterling cette année-ci. Et par la grâce d'Allah, le nombre de contributeurs a augmenté et il y a maintenant 1382 nouveaux contributeurs. Et en tout, il y a 14 519 contributeurs. Par la grâce d'Allah, la Jamaat du Royaume-Uni est en train de progresser rapidement. Et il y a donc bon nombre de personnes qui sont venues de l'Allemagne. Il y a aussi des Nasirat et Zatfal qui ont contribué aussi. Le Canada se trouvait tout le temps en cinquième position. Maintenant, le Canada se trouve en quatrième position. Et cette année-ci, ils ont contribué 180 000 dollars en plus. Et il y a 376 nouveaux contributeurs et en tout, il y a 13 325 nouveaux contributeurs. Et c'est le Daftar Atfal qui est le plus actif au Canada. En cinquième position, il y a l'Allemagne, alors que l'Allemagne se trouvait auparavant en quatrième position. Ils ont contribué 32 000 euros de plus, mais il y a 1387 contributeurs en moins. Et selon eux et selon le département des finances, bon nombre de personnes ont quitté l'Allemagne et sont venues ici au Royaume-Uni. Mais je pense qu'ils n'ont pas fait assez d'efforts. En sixième position, il y a les Jamaat de l'Inde. Il y a eu une augmentation de 1 700 000 roupies par rapport à la contribution de l'année dernière. Et en tout, il y a 116 120 contributeurs en Inde. Mais l'Inde doit se mettre sur ses pieds, car dans chaque pays, les Jamaat doivent se soutenir en raison de la situation mondiale. L'on dépend des USA et de l'Europe, mais il se peut qu'à l'avenir, l'on n'arrive plus à recevoir de l'aide de ces pays. Et l'Afrique aussi doit se mettre sur ses pieds maintenant. L'Indonésie se trouve en septième position. Et cette année-ci, ils ont contribué 32 908 livres sterling de plus et il y a 829 nouveaux contributeurs. Et ensuite, il y a la Belgique, la France et la Suisse. Par rapport aux contributions par tête, en premier, il y a les USA. Ils contribuent 76,82 livres sterling par tête. Ensuite, il y a la France, la Suisse, le Royaume-Uni, la Belgique. En ce qui concerne les diamants d'Afrique, en tête de liste, il y a le Nigeria. Le Nigeria est premier dans le fonds de Tahrik Jadid et dans le fonds de Waqf Jadid. Et la chose la plus intéressante est que l'année dernière, le nombre de contributeurs était 13 729 et cette année-ci, il y a 10 069 nouveaux contributeurs. C'est une grande augmentation. En tout, ils sont 23 798 contributeurs et au Ghana, il y a 3 776 nouveaux contributeurs. Et ensuite, il y a le Burkina, le Bénin et la Sierra Leone en cinquième position. Le nombre de contributeurs pour le Waqf Jadid est 537 000. Et cette année-ci, il y a eu 27 000 nouveaux contributeurs. Certains rapports reçus de certains pays ne sont pas complets. C'est pour cette raison qu'on n'arrive pas à présenter un chiffre final. Et comme je l'ai déclaré, on doit augmenter le nombre de contributeurs parmi les enfants. Il y a un grand nombre d'enfants dans la Jamaat. Si on prend la moitié de ces enfants, alors certainement le nombre de contributeurs va augmenter dans chaque Jamaat. Même si on prend 50 centimes des enfants. Les enfants doivent donc avoir cette habitude de faire ces sacrifices. Et les nouveaux aussi doivent contribuer quelque chose, même de symbolique. Et il y a aussi d'autres pays qui ont fait de grandes contributions. Les pays du Moyen-Orient aussi sont en train de faire ces sacrifices. Il y a une Jamaat qui se trouve dans les 10 premiers pays. Les 10 premiers Jamaat du Royaume-Uni sont Worcester Park, la Mosquée de Londres, Sutton, Tooting, New Malden, Inner Park, West Hill, Bethul Futu, et ensuite Hounslow North, et ensuite Mitcham. Les cinq premières Jamaat des USA sont Silicon Valley, Los Angeles East, Chicago West, Détroit et Los Angeles West. Il y a les contributions des adultes du Pakistan. En premier, il y a Lahore et ensuite Karachi et Rabwa en troisième position. Et ensuite, dans les districts, il y a Sialkot, Rawalpindi, Islamabad, Faisalabad, Gujranwala, Sheikhupura, ensuite Mirpur Khas et Multan, et Sargodha et Gujarat. Ils ont aussi une liste spéciale pour les enfants. Et en premier, il y a Lahore, Karachi et Rabwa. Et dans la liste des districts, et en premier, il y a Islamabad, ensuite Sialkot, ensuite Gujranwala, Sheikhupura, cinquième position, Rawalpindi, et ensuite Faisalabad, Mirpur Khas, Sargodha, Narwal et Gujarat. Il y a d'autres jamaats du Pakistan qui ont fait de grands sacrifices. Les cinq premières jamaats de l'Allemagne sont Hambourg, ensuite Grossgrau, et ensuite il y a Mainz, Baden-Baden, et ensuite Friedberg et Francfort. Les dix premiers jamaats de la jamaat du Canada et Calgary North-East, et ensuite Calgary North-West, Richmond Hill, Toronto Central, Durham, Markham, Peace Village South, Edmonton, Peace Village East, Saskatoon. Ils ont aussi une liste spéciale pour les enfants. Et il y a Calgary North-East, Durham, Peace Village South, Abode of Peace, Calgary North-West, Toronto Central, Edmonton, Peace Village East, Peace Village Central, Woodbridge. Voilà donc la liste des sacrifices faits l'année dernière. Qu'Allah récompense toutes ces personnes et leurs biens. Et qu'Allah fasse fructifier ses sacrifices et fasse progresser la jamaat. Et qu'à chaque instant, les Ahmadis aient comme objectif le plaisir de Dieu. Qu'Allah nous donne la possibilité aussi de prier.